Nous sommes avec Dominique Aidé, que je salue. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, romancière et essayiste franco-libanaise. Vous venez de publier Edouard Saïd, le roman de sa pensée aux éditions La Fabrique, dont nous parlerons dans le deuxième temps de cet entretien. Samedi dernier, à l'heure où nous parlions, le premier ministre libanais démissionnaire, Saad Hariri, atterrissait en France, répondant à l'invitation du chef de l'État. Mercredi, jour de la fête de l'indépendance du Liban, il est rentré dans son pays et il a suspendu sa démission. L'énigme de cet épisode, qui s'étend donc du 4 novembre, jour de sa démission, à ce 22 novembre, où il a été accueilli triomphalement par la foule, l'énigme reste entière. Est-ce que la crise est finie, Dominique Aidé?
Je ne pense pas, disons qu'elle n'a pas évolué tragiquement comme on aurait pu le craindre au moment de la démission le 4 novembre. Il y a eu en effet une porte de sortie improvisée et bien improvisée par le gouvernement français et donc ce retour à Beyrouth dans un climat plutôt favorable, positif, puisque les différentes communautés, les différents chefs de communauté qui ne sont pas toujours des modèles de sagesse ont eu dans ce cas précis un excellent réflexe de solidarité et d'appui, de soutien à Saad Hariri, dont il est apparu très vite qu'il avait été tout de même l'otage du régime saoudien actuel de Mohammed ben Salman. Et donc l'opération saoudienne semble n'avoir pas vraiment abouti ou avoir en tout cas partiellement échoué à l'heure d'aujourd'hui. Alors, on peut ensuite épiloguer, on peut se demander si à terme, cette espèce d'électrochoc, parce que c'en fut un, et pour les Libanais, au moment de la démission de Hariri, il y a même eu un vrai moment de panique, parce que l'équilibre est très fragile dans ce pays, et que tout d'un coup, ce maillon de la chaîne retiré, toutes les débandades devenaient possibles. Donc, il y a eu, c'est vrai, une sorte de retour au calme après la panique, mais c'est un retour qui reste, je dirais, encore très hypothétique.
Quelle crainte aviez-vous? Vous dites que vous avez, en tous les cas pour le moment, échappé à des événements dramatiques. La panique était fondée sur quelle crainte?
Oui, c'est que, vous voyez, les équilibres dans ce pays sont d'autant plus fragiles qu'ils sont complexes et, je dirais, absurdes. C'est-à-dire qu'ils ne se fondent pas sur un état de droit où l'on peut avoir recours instinctivement à des institutions qui vont réguler par exemple l'absence d'un ministre ou d'un parlementaire. Ça ne se passe pas comme ça. Les équilibres sont faits selon des donnes qui sont tellement communautaires, confessionnelles, des rapports de force téléguidés de l'extérieur. On sait que cette fameuse indépendance libanaise est, disons, un sujet... je ne veux pas ironiser à l'extrême, mais il n'y a pas un Libanais un peu conscient qui ne vous dira que l'indépendance n'est pas l'affaire de ce pays, malheureusement. C'est un pays qui n'est pas indépendant, mais qui est plein de gens indépendants. Et que le contraste entre les deux n'est pas très bien toujours perçu de l'extérieur. Et c'est ce qui en fait un pays tout à fait à part. C'est-à-dire que c'est un pays très mal équipé pour survivre à tous les chocs qui lui sont imposés. Actuellement, la présence quand même de 1,5 million de réfugiés syriens, auxquels s'ajoutent les 450 000 réfugiés palestiniens. Je ne sais pas si vous imaginez, sur une population qui fait 3-4 millions d'habitants, ce que ça signifie. Eh bien, malgré tout cela, malgré tous ces chocs, ce pays si mal équipé s'en sort et tient le coup. Donc il y a là un paradoxe qui mérite d'être étudié par d'autres que les Libanais, parce qu'il nous pose aujourd'hui un problème, et je dirais non pas une solution, mais un point d'interrogation passionnant. C'est comment fait-on pour continuer à vivre, travailler, créer, inventer, survivre, passer d'un jour à l'autre dans un pays qui, pour des raisons objectives, aurait dû presque s'évaporer. Alors, moi, je dirais que le choc de la démission de Hariri venait précisément mettre en péril ce très fragile équilibre où, malgré tout, un parti tel que le parti de Hezbollah, surarmé dans le pays, avait fini par trouver, par l'intermédiaire d'un président de la République qui lui était assez proche et de l'intervention des autres politiciens, ils avaient fini par trouver, entre communautés, un équilibre qui marchait plus ou moins, mais dont il faut malheureusement rappeler, moi je ne suis ni experte politique, ni responsable politique, donc j'abuse de, ou je me sers en tout cas, de mon indépendance, comme beaucoup de Libanais peuvent se servir de la leur. Eh bien, il ne faut pas oublier que, tout en étant très heureux de ce retour de Saad Hariri au pays, soutenu par les siens, bien accueilli par les siens, il ne faut pas oublier que derrière cela, il y a une situation de corruption qui prend des proportions absolument ahurissantes dans ce pays et qu'il ne faudrait pas que cela fasse écran à des responsabilités qui sont autant les siennes que celles des autres politiques libanais et qu'à la faveur de ces retrouvailles qui sont salutaires et que nous saluons, nous autres les Libanais lambda, nous leur disons, est-ce que l'heure n'est pas venue pour vous maintenant de faire un effort sur le plan de la corruption, de faire que ces 2 milliards de dollars annuels qui sont versés pour l'électricité et qui vont ensuite dans les poches des uns et des autres, s'ils avaient étaient ou s'ils étaient dans un avenir proche investis d'un coup pour des centrales d'électricité, eh bien l'électricité reviendrait dans tous les foyers et nous ne serions plus dans ce climat délétère de penser chaque fois que nous devons faire marcher un moteur à la place d'une lumière normale que c'est de l'argent qui va dans les poches des uns et des autres.
Dominique Hédé, cet accueil dont vous parlez, effectivement, on a pu lire ici ou là en France que Saad Hariri, à son retour, avait été accueilli comme un héros, comme un martyr, qu'il y avait une forte solidarité patriotique du peuple autour de son Premier ministre. Est-ce que vous l'expliquez par la personnalité de Saad Hariri ? Je rappelle qu'il est le fils de son père, Rafik Hariri, qui a été assassiné en 2005 et qui avait provoqué à nouveau une onde de choc dans le pays. Est-ce que c'est sa personnalité qui provoque cela, ou est-ce que c'est précisément ce que vous disiez tout à l'heure, la fragilité des équilibres? Donc est-ce que ce qui est salué avec son retour et ses retrouvailles, c'est lui, c'est l'espoir que vous mettez en lui, ou bien c'est effectivement l'équilibre retrouvé temporairement, disons?
Alors, je vous dirais que c'est une addition de ces différents facteurs. Comme très souvent au Liban, la cause unique n'existe pas. Donc, je dirais que d'abord, il a l'héritage, effectivement, du charisme de son père, qui a été un personnage très discuté dans le pays, mais qui a été aussi très applaudi par beaucoup. Et donc, il est certain qu'il bénéficie là d'une popularité redoublée du fait que son père a été assassiné dans des conditions tragiques qui nous ont tous énormément traumatisés. Et donc,
après avoir été, pardon de vous interrompre, le chef du gouvernement de 92 à 98, puis de 2000 à 2004.
Exactement.
Et de mêler à argent et politique, puisqu'il c'était un redoutable homme d'affaires également.
Exactement. Donc, vous me permettez comme ça d'aller encore plus vite, oui. Il y avait donc de tout cela. Et il y a aussi chez les Libanais, et c'est très très heureux de voir ça et de le vivre, un sursaut de dignité, un sursaut de respect de soi, d'amour propre, qui est de dire, écoutez, c'est très bien, nous savons que nous sommes manipulés depuis Téhéran, depuis Riyad, depuis Washington, depuis Tel Aviv, depuis Damas, depuis... Mais faites-le au moins avec un minimum de forme. Nous ne sommes pas candidats à n'importe quelle humiliation, dans n'importe quelle condition. Et allez savoir, je ne veux pas trop rêver, mais allez savoir si ce mouvement pourrait générer une espèce de nouvel état d'esprit, mais qui, encore une fois, supposerait que nos responsables politiques, eux aussi, aient envie d'un sursaut de dignité et d'amour propre.
Vous dites, Dominique Hédé, nous, en parlant de la société civile libanaise. Or, cette société civile, les choses seraient trop simples si on disait nous avec une seule société. Cette société civile regroupe 18 communautés. Hein, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est si compliqué au Liban. Est-ce que, quand vous dites nous, c'est un nous qui représente une unité libanaise aujourd'hui autour de ces événements, ou bien cette unité est-elle encore de façade ?
Oui, vos questions sont parfaites parce qu'effectivement, c'est les deux, c'est une unité. Je ne dirais pas de façade, je dirais qu'il y a quelque chose d'inqualifiable dans les rapports des Libanais entre eux, c'est-à-dire des mémoires quasiment incompatibles, ce qui est très rare sur un même territoire national. En général, c'est ce qui vient de l'extérieur qui va apporter une mémoire différente. Or là, nous avons entre des communautés du sud chiite, par exemple, qui ont eu à combattre telle invasion israélienne ou des populations chrétiennes du Nord, qui ont eu au contraire à se battre contre telle ou telle milice venue d'ailleurs. Il y a des mémoires qui sont très différentes, mais en même temps, et c'est ça la magie de ce pays. J'emploie ce mot à dessein, parce qu'on a vraiment toutes les tares possibles et imaginables, mais il faut bien voir qu'il y a autre chose. Il y a cette magie qui fait que des énergies individuelles venant, possiblement de communautés très différentes, peuvent, autour de cette table, comme nous ici, arriver en très peu de temps à s'entendre et à faire des choses aussi bien qu'elles les ont défaites. Donc cette capacité est quand même un potentiel qui, avec un minimum sur place de meilleure volonté, ou même ces leaders politiques auraient cette formidable conscience tout d'un coup de venir dire à leur peuple, à leur population, écoutez, c'est vrai, nous avons fait fonctionner l'État selon des règles qui n'étaient pas ni défendables, ni ceci, ni cela. Nous allons, s'ils employaient ce « nous », global, en englobant toutes les communautés, nous allons essayer de faire un peu autrement. Et rien que ça ferait que cette fameuse mosaïque communautaire téléguidée par les capitales étrangères pourrait peut-être commencer à reprendre les dossiers à la base, depuis les poubelles jusqu'à l'électricité, jusqu'au téléphone, avec des ministres qui viendraient dire écoutez, nous avons décidé de faire passer l'intérêt commun avant l'intérêt particulier.
Dominique Hédé, vous parliez tout à l'heure de ce 1,5 million de réfugiés syriens. Vous cohabitez depuis 6 ans avec ces réfugiés. Comment ça se passe ?
Écoutez, ça se passe là aussi, je vous dirais, d'une manière étonnamment, non tragique. Mais la situation est tragique. La situation est tragique pour ces réfugiés, qu'ils soient syriens ou qu'ils soient palestiniens. Parce qu'il ne faut pas encore oublier aussi les Palestiniens et des vagues successives de réfugiés, donc qui vivent dans des conditions innommables, qui n'ont pas de permis de travail, dont la dignité est bafouée. Enfin, il n'y a pas de mots pour qualifier l'état de ces populations. Il n'empêche que là où dans d'autres pays on aurait pu imaginer des conflits graves, les conflits sont sinon évités, très amortis. Et ça tient encore une fois à ce que j'appelle cette plasticité incroyable du Liban, cette capacité de ressort, y compris dans la fatigue, y compris dans la dépression, y compris dans l'épuisement. Il y a une énergie, il y a une imagination, il y a une capacité de ne pas tomber, qui est quelque chose d'extrêmement méritoire et que je suis pas malheureuse de dire ici à l'antenne parce que j'ai trop souvent tendance à entendre parler de ce pays uniquement par l'image de ceux qui, je dirais, le défigurent, c'est-à-dire dont je viens de parler, ou de ceux qui le manipulent mais il faut pas oublier qu'il est quand même habité par des gens et qu'en réalité ces gens sont majoritaires mais marginaux. On aurait rarement vu ça. Un pays où finalement la marge est quasiment majoritaire et elle s'active, elle va, elle vient, elle invente, pendant qu'elle sait, avec ironie, humour, que, et souvent exaspération, qu'on se paye sa tête à un autre niveau.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
8h30 sur France Culture, l'heure de la revue de presse de Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
Et on commence avec la fin du procès Mladic. Là, une page d'histoire se tourne.
Et oui, 5 ans après l'ouverture de son procès au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPI Ratko Mladic, le boucher des Balkans, comme le surnomme toute la presse depuis les années 90, a été reconnu coupable jeudi de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors à lire pour comprendre les enjeux de ce procès, un dossier très complet mis en ligne par le Courrier des Balkans. Le site d'information francophone spécialiste de la région revient bien sûr sur l'homme, son parcours, ses années de cavale après la guerre et son procès. Le journal se fait aussi l'écho des réactions sur place suite au verdict, mélange de larmes et de cris de joie du côté des survivants à Srebrenica. À l'opposé, dans l'entité serbe de Bosnie, le président a déclaré que Mladic était un héros et qu'il serait jugé par l'histoire plutôt que par les tribunaux. Alors on le voit, la réconciliation est loin d'être achevée. Ce dernier procès du TPI était pourtant une étape importante dans l'écriture de la vérité, rappelait Le Monde dans son édito jeudi. Mais c'est aussi une victoire au goût amer, prévient le journal, qui ne doit pas faire oublier la passivité et l'inaction de la communauté internationale à l'époque. Passivité et inaction, des mots d'une actualité brûlante, on le constate à lire l'interview d'une femme en colère dans le magazine Society. Il s'agit de Carla Del Ponte, ancienne procureure du TPI et encore tout récemment membre de la commission chargée d'enquêter sur les crimes de guerre en Syrie. Elle vient d'en claquer la porte, c'est inutile, dénonce-t-elle. Tout le monde se fiche de nos rapports sur les attaques au gaz sarin, par exemple. Nous avons des preuves de la culpabilité de l'armée syrienne. Alors j'espère qu'un jour on pourra tenir le procès de Bachar. Il faut y croire. Je pourrais même reprendre du service si l'on mettait en place un tribunal pour la Syrie. Mais, conclut-elle fataliste, personne ne va me demander ça.
Et dans l'international aussi, autre sujet de préoccupation cette semaine, l'avenir d'Angela Merkel.
Et oui, l'avenir d'Angela, mais surtout l'avenir de l'Allemagne. Les partis ont échoué cette semaine à parvenir à un accord en vue de former un gouvernement. Une crise inédite outre-Rhin qui pourrait voir le départ de Merkel. La chancelière chancelle, titrait lundi Libération. Et c'est comme si l'Europe tout entière refusait que son pilier, son moteur, son rocher, son gage de stabilité, ce sont les mots relevés dans la presse, soit lui aussi en crise. Alors à lire notamment dans Courrier International le bilan élogieux du Financial Times de la stabilité allemande sur la Russie, sur les réfugiés, sur l'euro. Ce sont les décisions prises à Berlin qui comptent aujourd'hui, rappelle le journal. Alors la crise actuelle aura donc des implications mondiales sur la question migratoire en particulier. Si l'Allemagne se retire dans un cocon nationaliste, alors la politique migratoire sera encore plus chaotique, prévient le journal. Beaucoup moins alarmiste, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel de son côté se lamente au contraire de l'incapacité de nos dirigeants à quitter le pouvoir. Pitoyable, peut-on lire, Merkel est en fin de course car elle n'a pas su lâcher les rênes du pouvoir au bon moment. Seule solution pour sortir de la crise, avance le Spiegel, former un gouvernement minoritaire. L'idée n'a pas bonne presse outre-Rhin et pourtant cela renforcerait les débats et donc la démocratie. Merkel devrait avoir ce courage ou alors laisser sa place aux autres.
Débat démocratie, on rejoint le débat d'idées en France autour de la sociologie. Un débat amorcé déjà depuis quelques mois.
Et oui, nous en parlions ici même au moment de la sortie de l'essai qui a lancé le pavé dans la mare, Le danger sociologique, paru en septembre au PUF. Les auteurs Gérald Bronner et Étienne Géhin y dénonçaient tout à la fois le manque de scientificité de la discipline, son obsession des déterminismes et son côté militant. La revue Le Débat du mois de novembre y revient en longueur dans un dossier où s'expriment également d'autres contempteurs de la sociologie critique, Nathalie Inich par exemple ou Olivier Galland notamment. La réponse des sociologues attaqués est à lire dans la rubrique Idées du Monde.fr. Pourquoi tant de haine, s'interroge le sociologue Bernard Lahir, qui renvoie ses attaquants à leur propre militantisme. Il faut s'interroger, dit-il, sur le parcours idéologique de chacun dans ce débat, car tout cela pour lui est signe de la droitisation de la vie intellectuelle. Bref, il faut leur appliquer la meilleure arme de la sociologie, la déconstruction.
C'était la revue de presse de Mélanie Chalandon. Et on retrouve notre invitée Dominique Aidé, romancière, essayiste, franco-libanaise. Vous publiez, Dominique Aidé, Édouard Saïd, le roman de sa pensée aux éditions La Fabrique. Et dans ce livre, on trouve énormément de choses, mais on trouve notamment une petite anecdote qui fait le lien entre ce que vous nous avez dit avant la revue de presse de Mélanie et cette partie. C'est une anecdote au cours de laquelle vous racontez qu'un jour, vous marchez dans Paris avec Cioran, philosophe roumain. et qu'il vous avait dit dans son inimitable accent des Carpates, alors je ne sais pas si je vais réussir à le faire, mais les Russes, la tragédie leur va, mais nous les Roumains, les Libanais, la tragédie ne nous va pas, c'est ça. Vous qui parliez tout à l'heure de tragédie, de non-tragédie, d'évitement constant de la tragédie, de paradoxe constant du pays, on est en plein dedans, là.
Oui, c'est vrai que il y a eu au Liban une situation tragique vécue avec un sens permanent de la dérision et qui ont fini par créer quelque chose de très particulier. Je le disais tout à l'heure à propos des Libanais, ils ont la faculté d'aller vers le pire et le meilleur. Et ils ont... Je pense que ça pouvait être dit également des Roumains. Je ne connais pas la Roumanie, mais Sioran m'en parlait souvent. Il y a dans ce tempérament une capacité à se moquer de soi, qui n'est pas forcément russe. Chez les Russes, c'est autre chose. C'est une profondeur, il y a une dimension épique, il y a une profondeur d'âme, je dirais, qui est d'un autre ordre. Et je comprends, lui comme moi, Sioran était un passionné de Dostoïevski. Nous retrouvions pas cet esprit-là dans nos pays.
Alors on croise dans votre essai sur Edward Said, Dominique Aidé, Sioran, on croise aussi Conrad, puisque Saïd avait une admiration inconditionnelle pour Conrad. Donc on croise aussi les figures la figure de Camus, avec qui il avait des divergences politiques profondes. Vous faites une sorte de... c'est exactement ça, le roman de sa pensée. Vous l'avez très bien connu, vous étiez une intime d'Edward Saïd. Edward Saïd, qui était-il? Comment le présenter aujourd'hui pour des gens qui ne l'ont pas connu? Il est mort il y a 14 ans, il est mort en 2003.
Oui, je suis d'autant plus contente d'avoir fait ce livre maintenant que j'apprends, avec sa parution, que finalement il était très peu connu en France, encore moins que je ne le pensais. Et c'était quelque chose qui l'affectait beaucoup parce qu'il était nourri de culture française. C'est un homme qui est né à Jérusalem en 35, qui a fait une partie de ses études primaires au Caire, qui est parti tôt à 15 ans aux États-Unis, poussé par un père assez rigoureux, une mère portée plus sur la littérature, très ambivalente, d'un couple finalement palestino-arabe, égyptien, qui projetait en leur fils une sorte de lettré occidental d'origine arabe. C'était un peu l'image qu'on se faisait de lui au moment où il est parti aux États-Unis. Il a fait des études de littérature, il est devenu prof de littérature comparée. Et là, il commence en travaillant sur Conrad, c'est sa thèse. Il continue en écrivant un livre qui s'appelle Beginnings, qui est un livre très savant sur les commencements dans les textes littéraires et philosophiques. Où prend-on le début d'un texte et où tranche-t-on dans le temps? Quel rapport entretient-on avec le passé proche et le passé lointain pour assurer de l'avenir au présent dans lequel on se trouve? C'est à peu près dans cette problématique qu'il était au moment où, en 67, la guerre des six jours le réveille brusquement à une situation, une identité qu'il avait enfouie pour toutes les raisons que je viens de dire très sommairement, et il prend une conscience politique aiguë, non seulement de l'injustice faite aux Palestiniens, mais aussi du rôle qu'il peut, lui, depuis New York, tenir par rapport à ce combat tellement asymétrique entre un peuple écrasé et un autre qui, toutefois, au moment même où cette histoire se passe, est très, très surpuissant à tous les points de vue, militairement, politiquement. Donc, depuis New York, depuis un environnement qui était assez marqué par des intellectuels juifs, par toute une culture juive, il était nourri de textes d'Adorno, de
d'Auerbach, de Foucault, de Vico.
Voilà. Eh bien, tout d'un coup, il ajoute à son combat intellectuel la dimension politique qui va donner beaucoup de coffres à l'ensemble, à sa voix et à l'ensemble de son parcours, il va devenir l'homme qui, depuis les États-Unis, avec un anglais impeccable, va pouvoir, en arabe, également en français, mais les Français ont tardé à vouloir l'entendre, pouvoir dire deux choses en même temps, ce qui n'était malheureusement pas le fait de la plupart.
Vous dites que les Français ont mis du temps à vouloir l'entendre. Vous en savez quelque chose, Dominique Hédé, puisque vous avez contribué à faire paraître, à éditer son grand œuvre en France et que, eh bien, effectivement, c'était difficile de le faire publier en France, d'en parler dans les médias. En France, son grand œuvre, c'était l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. Vous dites dans votre ouvrage, tout comme le mot négritude est devenu indissociable de Césaire, le mot orientalisme l'est désormais de Saïd. Quel enseignement retirer de ce grand livre aujourd'hui encore ?
Oui, alors il faut quand même que je me corrige un tout petit peu parce que pour l'orientalisme, il faut reconnaître que la France a été un des premiers pays à le traduire. Il a été ensuite traduit dans une trentaine de langues, mais la France, et à l'époque c'était Michel Chodkiewicz qui était à la tête des éditions du Seuil, a vu l'intérêt de ce livre et j'étais donc chargée de son lancement. C'est, si vous voulez, au moment d'aller au-delà du simple fait de prendre acte d'un livre qui nous faisait voir autrement le regard de l'Occident posé sur l'Orient, c'est au moment où il fallait élargir le débat, ou l'avoir tout simplement, que j'ai senti une rétraction dans un certain milieu intellectuel qui était, pour tout dire, mal équipé. Mal équipé pourquoi ? Parce que Saïd avait travaillé pendant des années, dans une très grande solitude, à mettre en rapport des textes qui étaient, je dirais, d'une signification implacable, c'est-à-dire que il trouvait chez Renan, il trouvait chez Flaubert qu'il admirait infiniment par ailleurs, il trouvait chez Gide ou Malraux, mais alors là sur un plan beaucoup plus positif, il trouvait là je cite à dessein les Français parce qu'évidemment ils sont pas les seuls cités dans ce livre, eh bien il citait chez tout ce monde-là, chez Victor Hugo, des textes qui donnait à voir à quel point cette culture sûre d'elle-même, disons depuis grosso modo l'invasion de l'Égypte par Napoléon, avait produit sur l'Orient un discours qui se mettait pratiquement jamais en question et qui produisait du fantasme, parfois sous une forme et dans une prose splendide, je pense à Nerval, je pense à Flaubert ou à Chateaubriand, ce sont des proses magnifiques mais qui n'empêchaient pas Edward d'aller retirer à l'intérieur du propos des choses qui sont proprement ahurissantes.
Dominique Hédé, vous l'avez bien connu, vous l'avez connu pendant longtemps, vous avez été une intime d'Edward Saïd. Est-ce que ça vous arrive de vous demander ce qu'il aurait pensé, ce qu'il aurait dit du monde d'aujourd'hui ? Je pense à une phrase que vous écrivez. Sa vigilance à dénoncer le racisme anti-musulman allait de pair avec sa détestation de l'obscurantisme des pouvoirs arabes. Et vous dites que sur l'islamisme, l'œuvre d'Edward Saïd nous donne des moyens de réfléchir aujourd'hui.
Oui, je suis convaincue et je pense que notamment sa postface à Orientalisme, écrite en 94, le livre est paru en 80, donc disons 15 ans plus tard, est très utile pour d'abord replacer exactement son propos là où lui le plaçait, c'est-à-dire de n'être jamais à un endroit où on se réfugie derrière une frontière, mais à l'endroit où on la traverse et on permet aux voix des deux côtés de communiquer. C'est-à-dire qu'il y a eu un malentendu autour de Saïd, et il le dit lui-même, où on l'a utilisé tantôt du côté musulman pour en faire une espèce de porte-parole d'une culture contre l'autre, ce qu'il n'était absolument pas. Il n'est pas venu dire à l'Occident, attendez voir, la culture arabe a des choses à vous apprendre, oui, beaucoup, mais elle va régler ses comptes avec vous, non, c'était absolument pas le cas. Et sur l'islam, il était évidemment sur toutes les positions laïques qui ont été les siennes toute sa vie, à savoir qu'une religion n'a rien à faire à la table du politique. Or, à partir du moment où on a dit ça, on a dit presque tout. Il avait un respect et un intérêt évident pour la culture islamique, qui était aussi la sienne, qui est aussi la mienne, parce qu'on ne peut pas vivre dans ces pays sans être aussi de cette culture. Elle est partout, elle est dans l'air, elle est dans la vie. La culture musulmane ce n'est pas uniquement un texte, ce n'est pas une prière, c'est quelque chose qui est dans l'air, et c'est cette chose compliquée qui vous rentre par les narines, par les oreilles, qu'on a voulu réduire à 5 lettres, et qui est en train de passer de bouche en bouche, comme un slogan, et qui est en train de se vider de millénaires de culture. C'est d'une gravité, mais immense. Et ça, Edward Said a sonné l'alarme et il l'aurait ressonné à l'heure qu'il est.
Edward Said, le roman de sa pensée, à lire absolument un livre de Dominique Aidé pour entrer dans l'œuvre ensuite d'Edward Said qu'il faut effectivement découvrir ou redécouvrir. Aujourd'hui encore, 8h46 sur France Culture. Restez avec nous, Dominique Aidé. 8h46 sur France Culture, c'est-à-dire l'heure de l'idée culture avec vous, Mélanie Chalandon, une personnalité du monde des idées qui vous a confié cette semaine son choix d'une œuvre qui l'a particulièrement marquée dans sa vie.
Et cette semaine, c'est l'historien Michel Vinocq qui nous a confié son choix. Michel Vinocq, grand spécialiste de l'histoire de la République, qui a beaucoup travaillé sur la vie intellectuelle, les mouvements, les idées politiques. Son dernier ouvrage vient de paraître, Décadence, fin de siècle, paru chez Gallimard, fin de siècle, celui du 19e, il faut entendre. Et pour son choix culture, il a choisi un grand classique de la littérature.
En y réfléchissant bien, je vais donc vous dire un mot sur un roman qui m'a particulièrement marqué. L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Pour moi, c'est un roman à découvrir parce que ça ne va pas de soi. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché du premier coup. Et pourquoi ? Probablement parce que j'ai été déconcerté par la figure du héros, Frédéric Moreau. Profondément décevant. Bon, alors, il ne fallait pas s'attarder, évidemment, aux qualités intrinsèques de ce personnage. Il fallait voir de quoi était fait ce livre dans son ensemble. L'éducation sentimentale, d'abord, c'est pas l'histoire d'un seul personnage. Au contraire, c'est un livre arborescent avec énormément de personnages, des personnages du premier rang, des personnages du deuxième rang, des figures qui passent comme dans un film où il y a des figurants, mais des figurants qui vous marquent parce qu'ils représentent quelque chose. Donc, il y avait cette découverte, d'abord, d'une écriture, mais aussi un goût de la part de Flaubert, du vrai. Pour lui, ce qui faisait la beauté d'un livre, c'est évidemment l'écriture, le style. Mais en même temps, il ne dissociait pas ce culte du beau qu'il avait de la recherche de la vérité. En quoi il a été un romancier réaliste. Le mot lui déplaisait parfaitement, mais peu importe. Et l'éducation sentimentale, c'est aussi une source d'histoire, d'histoire au singulier, l'histoire en particulier de ces personnages qui évoluent à une époque qui s'appelle la monarchie de Juillet et la révolution de 1848. Et il y a une peinture de cette révolution et de cette époque par Flaubert magnifique.
Est-ce que ce roman a joué un rôle dans votre vocation d'historien ?
Ce qui m'a marqué, c'est le recul et le regard du romancier sur l'histoire. C'est un regard attentif aux faits les plus réels. Vous savez que Flaubert vérifiait absolument tout ce qu'il pouvait écrire, et parfois d'une manière maniaque. Mais ce qui m'a marqué certainement, c'est l'ironie de Flaubert. L'ironie de Flaubert, bon, j'avais à cette époque de ma jeunesse un engagement très à gauche, etc. Mais justement, l'ironie de Flaubert, la manière dont il décrit cette révolution, dont il décrit les clubs révolutionnaires, notamment celui qui s'appelle le Club de l'intelligence, rien que ce titre, le Club de l'intelligence, est complètement ironique, puisqu'on y voit défiler toutes sortes de gens qui sont stupides, qui sont grandiloquents et imbéciles. Et je trouve que quand on est militant comme je l'étais à 20 ans, ça fait du bien d'avoir un regard ironique sur les choses parce que ça procure une distanciation par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on croit, par rapport à ce qu'on proclame. Et je crois que Flaubert m'a aidé, et pas seulement à 20 ans, à regarder les choses à la fois avec sérieux et en même temps avec ironie.
Voilà Michel Vinocq qui a également consacré une biographie à Flaubert qui est parue chez Gallimard en 2013.
Une réaction, Dominique Hédé ?
Oui, c'est amusant parce que l'éducation sentimentale est un des livres qui a beaucoup marqué Edward et qui s'est identifié littéralement au personnage de Frédéric Moreau avec, je dirais un peu à l'opposé de Michel Vinocq, une identification avec ce côté décevant, contradictoire de cet adolescent qui finalement se cherche dans le mensonge et a une certaine sincérité dans cette recherche-là. C'est-à-dire, au fond, ce travail du négatif que Edward Said n'a cessé de faire sur lui-même, il l'a puisé très tôt dans l'éducation sentimentale, c'est-à-dire en évitant de se prendre pour un héros dès les premières minutes, et ça le rendait très intéressant.